Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En France, l'école fait un peu figure de monde à part. Tour à tour adulée ou mal aimée, les Français semblent attendre d'elle soit de pallier aux limites de leur éducation, soit de se cantonner à une bonne instruction. Régulièrement critiquée pour ses méthodes d'enseignement et ses réformes pas toujours très compréhensibles, l'école aujourd'hui n'a pas bonne presse auprès du grand public. Une école en crise, c'est en tout cas le constat de notre invité ce matin. Claire Le Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur donc d'un ouvrage aux éditions SOS Éducation, manuel de survie du professeur de français. Alors quand on vous voit comme ça, pourtant vous n'avez pas l'air épuisé, vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un en situation de survie. Peut-être pour commencer cette émission, vous pouvez nous dire qui vous êtes. Donc vous êtes professeur de lettres classiques, lectour dans le Gers, donc latin, grec, français. Peut-être nous dire brièvement votre parcours professionnel et ce qui fait que vous avez toute légitimité pour publier un tel ouvrage.
Voilà, alors oui, j'ai le grand plaisir d'enseigner le français et le latin actuellement au lycée et un petit peu en collège. Dans mes heures de latin, j'intègre aussi une petite initiation au grec ancien. Voilà, alors mon parcours, écoutez, je suis venue à l'enseignement un petit peu par hasard parce que j'ai eu la chance, quand j'étais collégienne, de commencer à étudier le grec. Et donc quand je suis arrivée à l'université, j'avais déjà un niveau de grec un peu conséquent. Et du coup, on m'a proposé, j'avais 17 ans, de prendre en charge les étudiants grands débutants en grec. Et donc ça a été mon premier contact avec l'enseignement. Et depuis, l'enseignement ne m'a plus lâchée. Voilà. Alors j'ai enseigné effectivement le français, les langues anciennes.
En collège, en lycée.
En collège, en lycée, voilà. J'ai fait aussi... dans mon parcours, un petit peu de formation des maîtres pour l'enseignement, donc pour les professeurs des écoles. J'ai eu aussi l'occasion de fonder et de diriger un établissement indépendant, un établissement hors contrat, primaire et collège. Voilà, j'ai aussi une expérience d'enseignement un petit peu particulière, puisque étant mère de 5 enfants, j'ai pratiqué l'école à la maison pendant 5 ans, le primaire de mes enfants en fait, été fait à la maison.
Et donc vous enseignez depuis combien de temps maintenant ?
Écoutez,
à gros traits, vous n'êtes pas obligé de nous donner un chiffre exact. Hein, mais...
À gros traits, je n'ai jamais arrêté d'enseigner, j'ai commencé à l'âge de 17 ans.
Voilà, on ne vous demandera pas votre âge, parce qu'il paraît que c'est mal poli avec les dames. Alors, donc vous publiez cet ouvrage, Manuel de survie du professeur de français. Peut-être avant qu'on se plonge dedans, en préparant cette émission, je retombais à nouveau sur des sondages. Alors vous me direz, le sondage, c'est la maladie des journalistes. Mais on entend souvent dire que les Français sont pas très contents de leur école. C'est vrai qu'on trouve difficilement des sondages qui disent le contraire. Le Figaro, novembre 2015, 56% des Français se déclarent insatisfaits de l'éducation de manière générale. Pourtant, qui apporte cette nuance, 57% des 18-24 ans, eux, en seraient satisfaits. Un peu plus loin, sur France Info, franceinfo.fr, même type de sondage, la plupart des Français sont insatisfaits de l'école. Alors, c'est intéressant, ça peut-être vous pourrez réagir aussi, disant qu'en même temps, les Français, comme je le disais en introduction, ont des attentes souvent contradictoires à l'égard de l'école. Alors, est-ce que vous, c'est votre expérience, vous comprenez que les Français soient insatisfaits de l'école?
Oui.
Est-ce que c'est le retour que vous aviez des parents? Et puis, quelle est cette espèce de « je t'aime moi non plus » des parents à l'égard de l'école?
Je dirais d'abord que c'est mon expérience de professeur qui me rend déjà moi-même et mes collègues, enfin, pleinement insatisfaite de l'école, dans la mesure où les élèves, enfin nous voyons la catastrophe d'année en année, les élèves qui nous arrivent par exemple en lycée, qui ne savent ni rédiger, ni maîtriser l'orthographe, ni comprendre un texte littéraire. Pour eux, rédiger un paragraphe, c'est vraiment une montagne à soulever. Enfin, il faut imaginer ça. En classe de première, j'ai des élèves qui, pour le bac, par exemple, voudraient prendre l'écriture d'invention, c'est-à-dire vraiment un texte littéraire à composer. Je pense à un élève, par exemple, qui est très créatif, qui a de belles idées, qui est un artiste, qui aurait beaucoup de choses à dire. Et malheureusement, j'ai été obligée de lui dire, écoutez, ce n'est pas possible, vous n'avez pas une maîtrise suffisante du français et je n'ai pas le temps de vous faire attraper ça d'ici l'épreuve du bac, quoi. C'est, voilà. Donc, que nous soyons mécontents du système scolaire actuellement, je crois que ça, c'est évidemment... C'est impossible que ça soit autrement. Alors, les parents nous renvoient ce mal-être, les élèves aussi nous renvoient ce mal-être. C'est vrai que si on regarde objectivement qu'est-ce que l'on fait, par exemple, je prends l'exemple des 4 années du collège, qu'est-ce que l'on fait de nos élèves entre la 6e et la 3e, qu'est-ce qu'ils apprennent, avec quel bagage ils ressortent, comment est-ce qu'on les a intéressés, voire passionnés, eh bien, on est pris d'un vertige. Hein. Il y a un vide total, un désinvestissement de l'intérêt, un désinvestissement de l'envie d'apprendre. Également aussi, malheureusement, hein, moi je constate beaucoup un chahut larvé, des problèmes d'autorité très importants qui font souffrir pas mal, notamment les jeunes professeurs qui sont inexpérimentés. Regardez au niveau des collèges et des lycées, rares sont quand même les heures de cours qui se déroulent dans un silence absolu, sauf si le professeur demande de la participation, bien sûr, mais on est toujours sur un brouhaha permanent. Et je ne vois pas comment l'intérêt des élèves peut être suscité, comment l'attention des élèves peut être suscitée si on est dans ce contexte-là.
Je disais que les Français ont une attente contradictoire avec l'école. Qu'est-ce que vous pensez de cette courte introduction ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on en attend en fait beaucoup parce qu'on leur demande quelque part... On leur confie voilà, ce qu'on a de plus cher, hein, et puis on demande le meilleur, on demande presque un prolongement de la famille, ou même un supplétif de la famille, enfin de suppléer, pardon, à la famille.
Ouais,
et
je
en
crois
même temps, régulièrement, on leur demande de s'en tenir à l'essentiel, c'est-à-dire juste d'instruire.
Je crois qu'il y a vraiment plusieurs choses. Il y a beaucoup de contradictions par rapport aux attentes de l'école. Il y a d'abord le fait que l'on attend de l'école ce que l'école ne peut pas donner. C'est-à-dire on projette sur l'école toutes nos contradictions sociales. On voudrait que l'école permette de préparer les élèves aux grands défis écologique, aux grands enjeux sociétaux, voilà, ce qui n'est pas véritablement le rôle de l'école. Et donc on renvoie sur l'école nos propres angoisses finalement d'adultes et nos contradictions de monde d'adultes. Ça c'est une première chose. Après, le lien entre l'école et la famille est aussi assez paradoxal pour la bonne raison que la famille est malmenée aujourd'hui, que nos élèves sont en souffrance, voilà, il y a beaucoup de situations familiales qui font que nos adolescents notamment ne sont pas bien. Et donc l'école, d'une certaine façon, oui, à prendre le souci de ces situations, à aider, à accompagner l'adolescent sur des chemins qui sont quelquefois des chemins douloureux. Et donc cette dimension d'éducation, eh bien, la majorité des professeurs, je dirais, d'une certaine façon, n'y sont pas préparés. Et pourtant, ça fait partie de notre métier. Et sans doute, les familles aussi ont tendance à trop se décharger sur l'école de cette dimension-là. Beaucoup d'enfants le lundi matin ne sont pas du tout prêts à travailler, ont l'énergie pompée par de grosses souffrances familiales. Et il faut que nous, professeurs, nous fassions avec ça. Voilà.
Alors, comment ne pas évoquer deux actualités récentes autour de l'école, la réforme de l'orthographe et celle du collège. Alors, on va prendre ça de manière chronologique. Commençons par celle du collège. On en a beaucoup entendu parler, évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Vous, quel est votre point de vue sur la réforme du collège ? Peut-être qu'il faut rappeler à gros traits en quoi elle consiste, d'abord, cette réforme. Alors, moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est plus de transversalité entre les matières, plus de méthodologie, donc de manière d'apprendre, si j'ai bien compris. Et puis, faire en sorte, alors vu de loin, hein, vu du côté journaliste, d'enlever toute espèce d'élitisme possible par la suppression d'un certain nombre de matières. Et je crois aussi là, un enseignement de l'histoire un petit peu révisé. Alors, est-ce que c'est relativement complet ? Qu'est-ce que vous ajouteriez ? Et vous, quelle est votre position sur cette réforme du collège ?
Alors cette réforme, à mes yeux, est la consécration d'un mouvement qui dure depuis des années et des années, qui est d'affaiblir les contenus disciplinaires, comme si on ne croyait plus en ce que l'on enseigne, et d'affaiblir aussi le rôle même du professeur, qui est d'enseigner, qui est de transmettre une matière. Alors vous dites de la méthodologie, mais le problème c'est que de la méthodologie sans matière, on ne va pas très très loin en fait. Les enseignements transversaux, c'est aussi un petit peu une utopie, parce que ce qui se passe, c'est que quand on enseigne le français, quand on enseigne les maths, quand on enseigne le latin, il faut qu'au bout du compte, l'enfant, l'adolescent puisse pratiquer cette matière, puisse la maîtriser, qu'il ait les outils nécessaires pour pouvoir en faire quelque chose. Par exemple, pour le latin, qu'on en soit capable de traduire une version latine. Pour le français, que l'on soit capable de rédiger, d'entrer dans un texte, d'analyser, etc. Si on enlève des heures à cet enseignement disciplinaire proprement dit, eh bien on se retrouve devant des élèves qui zappent d'une chose à une autre, qui finalement se découragent et se désinvestissent parce qu'ils ne peuvent rien faire de ce que l'on de ce qu'on leur enseigne. Ils ne peuvent rien en faire au bout du compte, puisqu'ils ne maîtrisent pas véritablement une matière en tant que telle. Donc cet affadissement de l'enseignement des disciplines vient du fait que, d'une part, on constate la chute des niveaux, d'autre part, on constate le désinvestissement des élèves, et la solution que l'on prétend trouver, c'est de donner du sens aux disciplines, d'apporter un supplément de sens, j'ai presque envie de dire, pour sauver l'insignifiance de l'enseignement disciplinaire.
Qu'est-ce que ça veut dire, donner du sens aux disciplines ?
Comme si enseigner le français n'avait pas suffisamment de sens. Comme si enseigner l'histoire, c'était finalement assez insignifiant pour les élèves.
Et le supplément de sens, c'est quoi ?
Et alors, le supplément de sens, eh bien, vous le trouvez, par exemple, avec le projet de ce qu'on appelle les EPI, hein, les enseignements pratiques interdisciplinaires, c'est-à-dire de raccrocher l'enseignement des disciplines à des enjeux ou à des sujets qui n'ont pas un rapport direct à ces disciplines. Par exemple, la santé, le bien-être, la communication, la vie en société, voilà, le défi écologique, je ne sais. Voilà. Et ces grands défis écologiques sont censés donner une dimension pratique, puisque ça s'appelle enseignement pratique interdisciplinaire. Voilà. Moi, je prétends que la pratique, elle est à l'intérieur de chaque discipline. Et nous en parlerons sans doute tout à l'heure. Comment est-ce que l'on pratique le français ? Comment est-ce que l'on pratique le latin ? Pour que cela soit vraiment intéressant. À mon avis, il n'y a pas besoin de rajouter du sens aux disciplines.
Est-ce qu'il y a des choses à sauver dans cette réforme du collège, à votre avis ? Ou est-ce que pour vous, c'est
oui,
un zéro pointé ?
Il y a peut-être quelque chose à sauver, mais alors il faudrait vraiment l'interpréter correctement, qui est le fait de vouloir faire travailler davantage les professeurs ensemble. Il y a une chose qui, à mon avis, sclérose beaucoup notre système scolaire et nos habitudes de l'enseignement, c'est le cloisonnement entre les disciplines, le cloisonnement entre les professeurs. Mais à mon avis, ce n'est pas les élèves qui doivent faire les frais de ce manque de collaboration par le fait de créer des enseignements interdisciplinaires qui finalement vident complètement le contenu disciplinaire, mais c'est peut-être plutôt les professeurs qui ont à se remettre en question, à apprendre à travailler davantage ensemble, à partager sur leurs pratiques pour pouvoir faire évoluer leurs pratiques, pour pouvoir retrouver une liberté, une créativité, savoir comment enseigne le collègue qui est dans la salle à côté. Penser qu'un professeur peut enseigner 20 ans à côté d'un autre collègue sans jamais être rentré dans sa classe, sans jamais savoir comment il enseigne, sans jamais savoir quelles sont ses difficultés et quels sont au contraire le talent, quel est son talent en particulier. Vous voyez, il y a un manque de richesse colossal par ce manque de communication et ce manque de travail ensemble.
Alors, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, non ? Avant qu'on fasse une première pause musicale, un mot de la réforme de l'orthographe. Alors, la réforme de l'orthographe, c'est vrai que, en tout cas, dans la presse, c'est pareil. Hein, pour un non-spécialiste, on a l'impression que ça fait rire presque la France entière. Voilà, on voyait des posts partout sur Facebook, on lisait ça dans la presse. Et puis, jusqu'à Jean d'Ormesson, qui est sorti, enfin, pas de son silence, parce que c'est lui rêve de parler, mais qui, lui, en général, est assez, pas bonhomme, mais enfin assez léger, et qui s'est même offusqué de cette réforme, disant qu'aujourd'hui, les Français avaient autre chose à faire que qu'on réforme l'orthographe, mais plutôt qu'on s'occupe de leurs problèmes d'emploi, notamment. Vous, sur la réforme de l'orthographe, qu'est-ce que vous diriez ? Quel a été votre sentiment ?
Cette réforme de l'orthographe, c'est considérer que finalement la langue française n'a pas beaucoup de valeur en tant que telle, que finalement elle n'a pas d'histoire, que les mots n'ont pas d'étymologie, et que, on en parlera tout à l'heure aussi, la langue c'est un outil de communication, c'est tout. L'orthographe, je suis désolée, mais l'orthographe a un sens. L'orthographe fait partie de l'histoire du mot. Quand on regarde l'étymologie d'un mot, quand je fais travailler mes élèves sur l'étymologie latine ou grecque, eh bien nous découvrons une richesse effroyable de ce mot qui fait que son synonyme n'a pas exactement le même sens. Et si on enlève l'orthographe, eh bien, la richesse étymologique est gommée, tout simplement. Voilà.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
D'où nous l'a écrit, qu'un temps la nuit
tout s'efface.
Sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos
laver, pour ne pas oublier, pour tout changer.
Mélangeons demain dans un refrain nos visages,
métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Message pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir.
Voilà, ce matin, une émission Crise de l'école, le coup de gueule d'une prof de français. Cette prof de français, elle s'appelle Claire Le Breton, elle est professeure, non pas prof, de lettres classiques, de latin, grec et français, auteur d'un ouvrage Manuel de survie du professeur de français aux éditions SOS Éducation. On dira un mot peut-être à la fin de SOS Éducation. Qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition, qui n'est pas qu'une maison d'édition, c'est aussi une association qui représente donc des parents d'élèves, et pas que, et qui essaye de lutter à son niveau ou à sa manière pour peut-être une réforme de l'enseignement en France. Alors rentrons dans le vif de votre ouvrage. Donc vous, évidemment, on l'a dit en introduction, vous êtes professeur de lettres classiques, donc votre dada, votre spécialité, c'est le français. Vous vous désolez de la manière dont c'est enseigné aujourd'hui, et vous partez d'un exemple dans votre ouvrage, vous partez autour d'un poème, un poème de Victor Hugo, « Demain dès l'aube », et puis partant de là, vous nous expliquez la manière dont c'est enseigné aujourd'hui, et par conséquence, ce pourquoi c'est probablement pas très intéressant pour des élèves, ou en tout cas pourquoi ils n'accrochent pas, ou ils ont du mal à rentrer dans ce type d'enseignement. Alors peut-être expliquez-nous ce cas concret, et puis après ça permettra de développer votre analyse de la crise.
Voilà, alors en fait, dans cet ouvrage, j'ai vraiment voulu me mettre à hauteur d'élève, hein, ouvrir la porte de la classe, ouvrir le cahier, ouvrir le manuel de l'élève et voir un petit peu qu'est-ce qu'on en fait de cet élève. Et donc j'ai pris l'exemple du collégien, j'ai pris une classe de quatrième et j'ai ouvert un manuel scolaire récent, hein, publié en 2011. Et j'ai regardé comment est-ce qu'on faisait étudier, comment est-ce qu'on proposait une lecture d'un poème bien connu de Victor Hugo, « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, etc. Voilà. » Alors comment est-ce que cette étude est proposée? Eh bien, on demande tout d'abord aux élèves, avant de lire le poème, de faire une présentation la plus formelle possible, tout à fait formelle de ce poème, sa structure, les vers, les rimes, les strophes, etc. Donc avant la lecture. Ensuite, la lecture est organisée autour de trois axes, à l'intérieur d'une problématique. Alors cette problématique qui sait explorer les thèmes du lyrisme. Les axes, ça peut être par exemple une question comme « Vers quel rendez-vous ?» Et à l'intérieur de ces axes, il y a une succession de questions, donc c'est ce que les élèves appellent des questions sur texte, auxquelles les élèves sont censés répondre, et c'est comme ça qu'ils étudient le texte. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de regarder un petit peu ces questions. On voit qu'elles sont tout à fait dépareillées, qu'elles demandent
Est-ce que vous nous donnez des exemples?
Alors, je vais vous donner des exemples, voilà, exactement. Elles demandent soit de faire des simples repérages, C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, lister les différents paysages à parcourir, quels sont les verbes de mouvement, bon, voilà. Elle demande aussi d'avoir des connaissances de la langue. Par exemple, elle demande de repérer des pronoms personnels ou de repérer des expansions du nom. Et il y a aussi des questions de recherche du sens. Mais curieusement, ces questions de recherche du sens, elles font suite immédiatement à une question de repérage. Par exemple, quels sont les pronoms personnels ? Quels sentiments du poète traduisent-ils ? Comme si l'usage d'un pronom personnel pouvait immédiatement faire comprendre à l'élève que le poète aime et souffre, par exemple. Donc comme si un procédé produisait un sens immédiatement. Voilà. Et donc ces questions, elles sont dépareillées, elles sollicitent l'intelligence de façon très diverse, de façon très désordonnée, sans donner à l'élève la clé de ce qui est le fil conducteur de ces questions. En fait, l'élève n'a pas accès au fil conducteur de ces questions, sauf si vraiment il va regarder à chaque fois quel est l'axe dans lequel se situe la question et quelle est la problématique générale qui sous-tend toutes ces questions. Mais en fait, l'élève de quatrième, ça, il ne le fait pas. Il est sur sa question et il répond à chaque question au fur et à mesure, c'est tout.
C'est-à-dire, vous voulez dire, il n'a pas accès à la logique, en fait.
Il n'a pas du tout accès.
Qui sous-tend à ce questionnement.
À la démarche intellectuelle qui sous-tend ce questionnement.
Voilà. Et vous dites qu'il n'y a pas de lecture, en fait. On ne commence pas par une lecture.
Alors, on ne commence pas par lire le texte. On ne commence pas par avoir une vision globale du texte, une vision totale du texte, puisqu'on a décortiqué les aspects formels du texte dans cette première question qui était avant de lire le poème.
Alors, voilà. Quand on n'est pas initié, c'est vrai qu'évidemment ça paraît surprenant. Déjà, comment les élèves réagissent quand vous enseignez comme ça, et est-ce que vous êtes obligé d'enseigner de la sorte ?
Alors non, je n'enseigne jamais comme ça. Cette façon d'enseigner, c'est celle qui a cours aujourd'hui, c'est celle qui est proposée dans les manuels scolaires, c'est celle à travers laquelle les professeurs sont formés, oui, mais moi je refuse absolument d'enseigner comme ça.
Et comment les élèves réagissent quand
Alors, les élèves, alors, écoutez, c'est extrêmement savoir, difficile. Coup, mais... Ah si, je le sais, parce que j'entends beaucoup parler autour de moi, les professeurs, les élèves, etc. Et en fait, les élèves, eh bien, n'aiment pas du tout, et les textes, du coup, ne les marquent pas du tout. Les textes ne restent pas du tout dans les mémoires. Voilà, les élèves me disent que ça les saoule et que c'est grave relou, mais on peut difficilement leur en vouloir, évidemment, dans ces conditions-là.
Alors, évidemment, vous détaillez ça. Hein, on va dire la première partie de votre ouvrage, c'est un peu une analyse de la situation, en tout cas, côté prof de français. Et puis, vous avez cette conclusion, donc à la fin de... À la fin du premier chapitre, vous dites « Aujourd'hui, le savoir et le professeur sont descendus de leur fragile piédestal, mais le présupposé de l'énoncer quant à lui étant solidement son autorité. » Donc, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a un primat, justement, d'une méthode d'apprentissage qui n'est pas toujours très compréhensible, vous dites, par l'élève, et qui n'est pas toujours pas tout à fait acceptée par le professeur. Donc, c'est quoi ? C'est la règle, en fait, d'enseignement, la manière d'enseigner, qui finit par faire autorité dans la classe plutôt que le professeur sur l'élève ou sur la matière sur l'élève et le professeur.
En fait, pour vous répondre, je vais revenir à notre exemple. C'est-à-dire, je vous disais, l'élève, finalement, répond à des questions dont il n'a pas le fil conducteur, dont il ne maîtrise pas véritablement la démarche intellectuelle. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une démarche sous-jacente à ce système de questions posées sur un texte. Quelle est cette démarche sous-jacente ? C'est que pour comprendre ce texte, il faut le repérer comme un énoncé. Vous avez employé le mot énoncé tout à l'heure. J'ai presque envie de dire pas comme un texte littéraire, mais comme un énoncé. Qu'est-ce que c'est qu'un énoncé ? Qu'est-ce qui définit un énoncé ? C'est le fait que dans tout texte, pour tout texte, il y ait un émetteur ou un énonciateur, quelqu'un qui dit quelque chose, un destinataire, quelqu'un à qui le texte est adressé, et des circonstances, où, quand, comment, pourquoi, qui sont donatrices de sens. Et en fait, c'est trois choses, hein, un énonciateur, un destinataire, les circonstances, qui configurent ce que l'on appelle en pédagogie la situation d'énonciation. Et la situation d'énonciation, c'est le passage obligé pour accéder au texte. En ce sens, la sensibilité du jeune lecteur est très peu sollicitée Ce qu'on lui demande finalement, si on repasse ces questions les unes après les autres, ce qu'on lui demande finalement, c'est de repérer qui est le destinataire, dans quel but il écrit, qui est l'émetteur, dans quel but il écrit ce texte, qui est son destinataire et quelles sont les circonstances de l'émission de cet énoncé.
C'est vrai qu'on a même déjà un peu de mal à suivre, alors on se dit que pour les élèves ça doit vraiment être compliqué. Toujours est-il que la question qu'on a envie de vous poser derrière, alors c'est la question que pose SOS Éducation, hein, donc SOS Éducation on peut la présenter brièvement, donc qui est à cette maison d'édition, mais qui est surtout une association qui regroupe un certain nombre donc, de parents, de professeurs, 60 000 membres, plus de 200 000 sympathisants. Globalement, SOS Éducation, ses thèses sont, on va dire, fortes, hein, musclées. Voilà, opposition à la méthode globale, opposition au pédagogisme, etc., etc. Vous dites dans votre introduction, grande est la tentation de vouloir déplacer le métier propre de l'école plutôt que d'accepter une remise en cause critique de la manière dont elle l'assume. C'est-à-dire qu'on montre du doigt l'école, mais vous dites en fait le problème c'est pas l'école. Alors vous n'êtes pas la première à dire ça, mais souvent la question qu'on se pose c'est qu'on se dit comment peut-on en arriver là en fait. Même sans être spécialiste, on peut imaginer que la pédagogie a du bon, mais on peut avoir du mal à comprendre. En tout cas quand on a un certain âge, c'est à peu près mon cas. On n'a pas eu des cours de français qui ressemblaient à ça ou pas tout à fait.
Oui, en fait, voilà, dans la question que vous posez, il y a déjà la manière dont on interpelle l'école. Je crois qu'il faut avoir le courage de faire une vraie remise en question de l'école, qui est d'aller chercher comment est-ce qu'on traite les élèves, comment est-ce qu'on enseigne, comment est fait le cours. Et qu'est-ce que vit l'élève dans une heure de cours au fil des semaines et dans ce qui fait son année scolaire? Voilà, je crois que ça, c'est vraiment la première chose. Dans ce dont nous sommes en train de parler pour le français, je parle de la perspective de l'énonciation qui fait autorité, hein, c'est l'expression que vous avez prise tout à l'heure, qui fait autorité pour l'enseignement du français. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce qui fait autorité, ce n'est plus la valeur d'un texte littéraire. Quand un professeur décide, par exemple, qu'il veut faire étudier un poème de Victor Hugo, il doit absolument légitimer son étude du poème de Victor Hugo en l'incluant dans une séquence, par exemple, une séquence d'exploration des thèmes du lyrisme, comme je disais tout à l'heure. La langue non plus ne fait plus autorité, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir de l'étude de la nature des mots, de la fonction, de la grammaire, etc. Il faut que cette étude soit inclue dans une problématique qui va être une problématique de l'énonciation. Comment est-ce qu'un énonciateur va s'adresser à un destinataire dans telle circonstance, etc.
Vous pouvez préciser ça, parce que là, j'ai du mal à suivre, de fait.
En fait, la nature des mots, en soi, ce n'est pas intéressant. De distinguer un nom d'un pronom ou d'un adjectif, ce n'est pas considéré comme signifiant, comme quelque chose qui est porteur de sens.
Et donc à la place, on fait quoi?
À la place, ce qui est porteur de sens, si on regarde par exemple comment est-ce que un énonciateur utilise plusieurs mots pour ne pas répéter le même, c'est ce qu'on appelle un procédé de reprise. Voilà, on étudie un procédé qui va être un procédé d'énonciation. Mais pas quelque chose qui vient de la richesse de la langue elle-même.
Alors je vous posais la question, comment on en est arrivé là? C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que depuis des années, on a l'impression qu'il y a un primat, en tout cas c'est ce qu'on lit souvent et c'est ce que vous dites, un primat du concept ou de la méthode sur la matière ou sur l'enseignement en fait.
Voilà, alors il y a plusieurs choses. Je pense que... Alors déjà, je vais parler du français proprement dit. Le pédagogisme en français vient quand même d'un présupposé, qui est un présupposé intellectuel, qui est une redéfinition de la langue et du texte. Et ça, c'est d'une certaine façon, j'allais presque dire, un abus de pouvoir que l'on lance des méthodes pédagogiques peut-être, mais que l'on redéfinisse la langue et qu'on redéfinisse ce qu'est un texte en amoindrissant considérablement le sens de ce qu'est la langue et de ce qu'est le texte, ça on n'a pas le droit de le faire. La langue n'est pas qu'un outil et le texte n'est pas qu'un produit de communication. Étudier le français, ce n'est pas apprendre à communiquer. C'est beaucoup plus que ça. C'est accéder au sens et c'est répondre à la quête de sens de l'enfant et de l'adolescent. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est complètement gommé aujourd'hui. On est trop préoccupé du fait que l'école doive préparer l'insertion dans la vie en société, dans la vie professionnelle, et on gomme complètement l'aspect essentiel de l'école qui est de former la personnalité et qui est de former à la liberté de penser. Et dans cette perspective, l'accès au sens, l'accès à la culture n'a plus beaucoup d'importance. Et je crois que la racine de la difficulté se trouve à ce niveau-là, qui est donc un niveau vraiment profond en fait.
Sous le soleil, la terre se fend pour cet homme et pour son enfant. Après le puits qu'il faut creuser, il reste un sillon à tracer. Sans attendre, apprendre à lire, à écrire, à compter. Ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. Qu'on lui en donne un jour la clé, il a le monde à sa portée. Lire, apprendre à lire entre les lignes, découvrir la magie des signes et les trésors inépuisables qu'on emporte dans son cartable. Comprendre, c'est comme un mur que l'on traverse. C'est la brume qui se disperse, une promesse encore plus belle, la connaissance universelle. Compter, apprendre à compter sur soi-même, à compter pour ceux qui vous aiment, pour faire aussi partie du nombre, pouvoir enfin sortir de l'ombre. Comprendre combien la vie peut être belle, et se mettre à compter pour elle, faire la somme de sa différence, et se soustraire à l'ignorance. Écrire, apprendre à écrire son histoire, à la plume et au crayon noir, en appliquant son écriture, raconter sa propre aventure. Surprendre, cueillir ses mots comme des fleurs, semer des graines au long des cœurs, confier son âme et sa mémoire à celui qui viendra plus tard. Pour cet enfant à son pupitre, tirer la langue sur le titre, écrire son nom sur son cahier, c'est plonger vers sa liberté.
Radio Présence à Millau, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin donc une émission Crise de l'école, le coup de gueule d'une prof de français. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec Claire Le Breton, professeure de lettres classiques, dans le Gers, et auteur d'un ouvrage manuel de survie du professeur de français aux éditions SOS Éducation. Alors, vous nous avez, via votre métier, hein, puisque votre métier d'enseigner le français, décrit quel était un peu le problème. J'ai envie de dire, pour la partie solution, je vous proposais de partir à nouveau d'un exemple. Il y a une anecdote que vous citez dans votre ouvrage. Donc, vous demandez aux élèves, vous faites une lecture du roman de Chrétien de Troyes, Yvon ou le Chevalier au Lion. Vous décrivez un petit peu donc ce roman, et puis à la fin, vous avez un élève qui vient vous voir et qui pose une question qui, pour vous, était saisissante et qui dit quelque chose de profond quant aux besoins des élèves d'être en rapport avec ces textes où ils trouvent plus que des énoncés, justement. Il y a quelque chose qui les rejoint en profondeur.
Mais évidemment, il faut que l'élève puisse avoir un accès direct au texte, puisse vraiment vivre une expérience littéraire. Et s'il ne l'a pas, il nous renvoie son mal-être, c'est évident. Alors l'histoire, elle est... Enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup mon expérience de professeur, hein, de manifestations de cette quête du sens de l'enfant et de l'adolescent. Mais je crois que là, cette anecdote, c'est une des manifestations les plus abouties que j'ai pu entendre. En fait, c'est en classe de 5e, hein, donc c'est vraiment des enfants très jeunes. Et je venais d'expliquer un petit peu ce que c'était que le merveilleux dans la littérature du Moyen-Âge. Et en fait, cet élève, donc on était en fin de journée, hein, cet élève, c'est un élève pas du tout un bon élève, un élève vraiment en difficulté scolaire, avec un comportement un petit peu marginal par rapport à la classe, un élève qui bouge, qui a beaucoup de mal à se concentrer. Vous voyez, pas du tout le modèle de l'élève tel qu'on en rêverait. Bon, voilà. Et en fait, à la fin de la journée, donc on sort, etc. Pour la première fois de l'année, il vient me voir, il me dit « Madame, j'ai une question à vous poser ». Et là, honnêtement, je tombe des nues, c'est vraiment l'élève de qui je n'aurais jamais attendu une question. Et il se campe devant moi et me dit « Madame, si j'ai bien compris, il y a d'un côté le réel contre lequel on ne peut rien, et de l'autre côté, le rêve ou le virtuel, bah, qui n'existe pas non plus, qui rien non plus. Et entre les deux, il n'y a rien. » Voilà. Et en disant ça, il me regarde avec presque une sorte d'angoisse, comme s'il attendait une confirmation de ce constat, ou alors au contraire, une autre réponse.
Alors pourquoi l'exemple pour vous est si significatif? On a envie de dire que c'était peut-être un élève qui est habitué aux jeux vidéo, tout simplement. C'est
alors,
ça,
je suis persuadée.
Il a découvert que...
Je suis persuadée que cet élève-là n'a pas trouvé dans son cursus scolaire, jusqu'au moment où il m'a posé cette question, on n'avait pas trouvé une nourriture qui réponde à sa quête de sens, que donc c'était un élève, comme beaucoup d'élèves, en fuite, effectivement, vers le virtuel et vers tous les écrans possibles et imaginables, et qu'à travers le choc de ce texte littéraire, il a compris qu'il pouvait peut-être y avoir autre chose. Il a compris, peut-être, il a commencé à entrevoir qu'il fallait les mots pour donner sens au réel, justement, et que l'extraordinaire force de l'illusion théâtrale ou de l'illusion romanesque était de rendre intelligible ce monde et de nous donner la possibilité d'en faire quelque chose. Alors bien sûr, lui ne le verbalise pas du tout comme ça, mais cette rencontre avec le texte littéraire a été pour lui la source de cette interrogation. Et je peux vous dire qu'ensuite, je ne l'ai pas laissé tomber cet élève.
Alors, vous dites après dans votre ouvrage, donc évidemment, il ne faut pas laisser tomber la lecture des grands textes. Alors, on a envie de dire, bon, c'est la prof de français qui parle. C'est vrai que tout un chacun a eu au collège des lectures qui lui paraissaient un peu difficiles, en tout cas d'accès. Vous dites que pour vous, c'est fondamental. Est-ce que vous pouvez nous redire pourquoi c'est fondamental d'avoir accès à ces grands textes, en fait?
C'est fondamental parce que
ces
textes nous parlent de qui nous sommes et nous permettent de répondre à notre recherche de sens de l'existence, de sens de la vie, notre recherche d'identité, notamment, c'est particulièrement important pour les enfants et les jeunes qui sont en pleine étape de formation.
Il y a comme une espèce d'initiation, en fait, c'est ça? Initiation au monde
via les œuvres littéraires. C'est plus qu'une initiation, c'est le fond culturel, véritablement, c'est la culture qui rend intelligible notre vie et qui rend intelligible ce monde. Et il faut que cette quête commence, cette recherche du sens commence quand on est enfant et adolescent pour pouvoir ensuite la poursuivre quand on est adulte. Voilà, ces textes ont une richesse infinie, alors il faut que le jeune puisse y avoir accès. Alors comment y avoir accès? Alors c'est sûr que dans la façon dont j'aime présenter les textes, je prends complètement à rebours ce que je vous ai expliqué tout à l'heure d'après le manuel scolaire pour le poème « Demain dès l'aube ».
Alors dites-nous tout, on va dire qu'on est en cours de français, et alors, vous êtes inspecté, et puis on vous demande de rendre compte de la manière dont vous enseignez le français. Alors vous avez un chapitre, « Les quatre voies du libre accès à la langue française ». Alors s'il vous plaît, faites-nous la version grand public. Mais donc vous détaillez un peu pour vous ce qui serait une solution.
Alors ce qui est premier, c'est avant ces quatre voies qui sont l'accès à la langue proprement dite, c'est d'abord l'accès au texte, c'est-à-dire que tout enseignement du français, tout apprentissage, que ce soit de la grammaire, de la conjugaison, etc., part toujours d'un texte, part toujours du texte et d'un texte avec lequel on est en relation. formation. Donc j'aime beaucoup apporter un nouveau texte en classe avec, j'ai presque envie de dire, un véritable scénario de découverte de ce texte qui commence par une vraie lecture, une lecture que je fais moi-même, que je ne laisse pas faire aux enfants, pour que ce soit une vraie lecture très engageante, où je mets en valeur vraiment le rythme, les sonorités, le sens, toute la dimension affective aussi du texte. Et avant toute autre chose, je demande aux élèves, par une seule question que je pose en disque rayé, qui est la question « De quoi parle ce texte ?», je demande aux élèves de réagir à ce texte, c'est-à-dire de voir ce texte dans sa totalité et de chercher par eux-mêmes comment ce texte les touche, les rejoint, leur parle. Voilà. Et à partir de cette démarche-là, nous mettons en place les apprentissages de la langue proprement dite à travers les quatre voies que je vais vous développer dans un instant. Mais vous voyez, ce texte « Demain dès l'aube » dans une classe de quatrième, il a donné lieu à des réponses. Hein, quand j'ai demandé avant toute chose, avant l'analyse, mais de quoi parle ce texte ? Au bout d'un moment, un élève m'a dit « Mais madame, finalement, c'est un voyage intérieur. » Et un autre élève, du coup, a levé le doigt derrière en me disant « Madame, ce voyage intérieur est douloureux et difficile parce que regardez les paysages qu'il traverse, des forêts, des montagnes, ce sont des paysages difficiles à franchir. Eh bien, intérieurement, il a quelque chose de difficile à franchir. » Vous imaginez un élève de quatrième qui dit quelque chose d'aussi fort, d'aussi fin aussi, eh bien, quand il va rentrer dans l'analyse proprement dite du texte, déjà, il a fait une énorme démarche et du coup, l'analyse va pouvoir être beaucoup plus approfondie que ce qui est demandé par les programmes pour ce niveau-là. Et à chaque fois, j'en fais l'expérience. J'ajoute aussi que ce texte-là va être mémorisé. Je demande toujours d'apprendre, en tout cas les poésies par cœur. Et ces textes mémorisés font partie aussi du patrimoine intellectuel de notre classe et nous aimons nous les redire en début de cours. Par exemple, quand les élèves sont encore debout, on se récite un ou deux ou trois poèmes que l'on connaît. Ou même quelquefois, il m'arrive, quand les élèves sont dehors dans le rang et qu'ils ne sont pas tout à fait calmes ou silencieux, de commencer à leur faire réciter un poème avant de monter en classe. Et en fait, ça crée une relation professeur-élève d'une extraordinaire richesse et densité parce que nous partageons ensemble quelque chose de fort.
Voilà. Alors, ces quatre voies.
Alors, les quatre voies. J'en arrive aux quatre voies.
Dites-nous brièvement, peut-être, quelle est votre anti-méthode dans l'enseignement du français.
L'anti-méthode, c'est de ne pas partir de la situation d'énonciation et de ses problématiques. Par exemple, de se demander si c'est un énoncé ancré ou un énoncé coupé. Alors là, vous n'allez pas comprendre, mais en fait, cette problématique-là se demande quel est le lien exact entre l'énonciateur et le destinataire. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je pars de la richesse de la langue. Les quatre voies. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien comprendre et bien maîtriser la nature des mots. Quand vous posez à un élève quelle est la nature de ce mot, il vous répond COD, ce qui est une fonction déjà. Bien maîtriser ce qu'est la nature des mots. Et la nature des mots, ça parle d'être un pronom, c'est pas une étiquette arbitraire. Être un pronom pour un mot, c'est avoir une charge de sens particulière. Un pronom remplace le nom, mais il peut le remplacer en ajoutant un petit quelque chose. Par exemple, le pronom démonstratif remplace le nom en le montrant du doigt, celui-ci. Le pronom possessif remplace le nom en disant à qui il appartient, le sien. Le pronom indéfini maintient un certain flou, certains, plusieurs. Et pour l'enfant, en primaire notamment, ça c'est une véritable magie des mots. Il faut le lui enseigner comme ça. De même, les fonctions, c'est la vie de la phrase. Les fonctions, ça permet à l'enfant de poser des questions aux mots comme s'il était le commissaire en train de faire une enquête. Il s'est passé telle action, d'accord, mais où, quand, pourquoi ? Voilà, et les fonctions répondent à ces questions-là. Alors ça, c'est la deuxième voie. La troisième voie, c'est la conjugaison. Il faut maîtriser pleinement la conjugaison des verbes, et notamment et surtout en collège, en partant des modes. Les modes, c'est un nuancier extraordinaire de la langue française. Une élève de quatrième me disait « Madame, finalement, le subjonctif, c'est le mode des états d'âme. » Elle avait parfaitement compris que le subjonctif...
En quelle classe, elle vous
disait ça ? En quatrième. Voilà, elle avait parfaitement compris.
Vous avez des élèves brillants ou c'est juste que vous les rendez brillants ?
Mais non, je ne les rends pas brillants, je leur permets de donner à chacun leur propre excellence. Un élève est heureux, épanoui et nous renvoie à son bien-être quand il peut donner sa propre excellence. Ce n'est pas la même chose que d'être brillant. Tous ne sont pas faits pour entrer à Normalsup et heureusement.
Alors continuez donc.
Alors la conjugaison par exemple, le mode des édames, eh bien écoutez, regardez le bourgeois gentilhomme. Quand il répond au professeur de philosophie, j'enrage que mes parents ne m'aient pas fait étudier tout cela lorsque j'étais jeune. Quand il dit ne m'aient pas fait étudier, il emploie le subjonctif. Pourquoi ? Parce que le fait que ses parents ne l'aient pas fait étudier, c'est l'objet de sa rage. Ce n'est pas l'objet d'un constat. Si c'était un constat, il aurait dit « Je constate que mes parents ne m'ont pas fait étudier tout cela lorsque j'étais jeune. » La conjugaison est intéressante si on la comprend comme ça et si on l'étudie comme ça. Donc pour le collège, il faut réinvestir la conjugaison en partant des modes de cette façon. Donc c'est la troisième voie. Et la quatrième voie, alors ça c'est la voie royale, c'est une discipline qui n'est pas pratiquée en tant que telle dans nos séquences scolaire d'aujourd'hui, c'est l'analyse logique proprement dit, c'est-à-dire le découpage en propositions de la phrase.
Alors, prenons l'exemple du poème de Victor Hugo peut-être.
Alors le poème de Victor Hugo, je ne sais pas si je vais trouver une phrase suffisamment complexe pour pouvoir vous l'expliquer. Alors je vais plutôt vous expliquer comment est-ce que on s'y prend et quel est l'intérêt de l'analyse logique de façon très simple. On fait une analyse logique quand on a une phrase qui comporte plusieurs idées et on cherche comment ces idées sont agencées. Et on voit que ces idées, elles sont liées entre elles par des liens logiques. Et il faut trouver si c'est un lien de cause, de conséquence, de concession. Donc il faut que l'enfant soit capable de reformuler sa phrase en disant « le fait que telle chose se soit passée est la conséquence du fait que telle chose soit affirmée, par exemple. »
Quelle est la vertu de cette analyse logique, en fait ?
Alors, la vertu de cette analyse logique, c'est qu'elle est la piste de lancement de l'autonomie intellectuelle de l'adolescent. Vous savez, l'adolescence, c'est l'âge où on a envie de ne plus avoir besoin de l'adulte et de faire les choses par soi-même. Et si on ne donne pas ça intellectuellement à l'adolescent, eh bien, il se détourne assez radicalement de la recherche de sens et de la vie intellectuelle. La vertu de l'analyse logique, c'est de permettre à un jeune de comprendre très rapidement le sens d'un texte, que ce soit un texte littéraire ou plus tard un texte philosophique ou un texte scientifique ou un texte politique, un texte médiatique, etc. Donc c'est la clé, j'ai envie de dire, c'est la clé de la liberté de penser.
Alors, on continue. Il y a un chapitre sur le latin. Je pense pas qu'on ait le temps d'en parler. Et surtout, un chapitre après, enfin, c'est votre dernier chapitre sur l'expression écrite. Alors, en préparant l'émission, entre autres avec Pascal Fournier, donc on va citer son nom, hein, qui est directeur de la communication pour le diocèse de Rodez, qui a des enfants, qui est de passage à la radio pour hier et aujourd'hui. Il disait que lui-même, il avait des aînés, c'était intéressant en préparant cette émission, des enfants, et qu'il se désolait, en fait, probablement comme beaucoup de parents, du fait qu'il n'avait plus de composition. Alors bon, disons, à ma génération, j'en avais. Moi qui n'ai pas d'enfant de cet âge-là, je le découvre, même si évidemment on le lit à droite à gauche. Pourquoi est-ce que pour vous c'est catastrophique ? Enfin, vous entendez, en tout cas c'est vraiment problématique. Et pourquoi il est important en fait d'avoir des compositions régulières ? Je ne sais pas si c'est le terme que vous utilisez.
Alors oui, la rédaction ou l'expression écrite, ça, c'est sûr que c'est un des plus grands vides vertigineux de nos pratiques du français aujourd'hui, les élèves ne rédigent pas. Ça, c'est absolument incompréhensible.
Alors pourquoi ?
Alors pourquoi ils ne rédigent pas ?
De l'extérieur, on a un peu du mal
toujours,
à comprendre.
C'est toujours à cause du présupposé de l'énoncé, parce que le texte en soi n'a pas une valeur en soi, donc il faut produire des énoncés. Donc on apprend à fabriquer des énoncés, et en fin de séquence, dans le meilleur des cas, on va faire une production d'écrit. Alors une production d'écrit, on donne à l'élève une certaine situation d'énonciation, et on va lui demander de produire un écrit qui correspond à cette situation d'énonciation. On ne va pas lui demander d'exprimer quelque chose. Vous comprenez, la nuance est immense. Voilà. Et d'autre part, le grand dommage de ce désinvestissement de l'activité d'écriture, c'est que l'apprentissage de la langue lui-même n'est jamais réinvesti dans une véritable pratique. Donc vous pouvez toujours enseigner l'orthographe, la grammaire ou la conjugaison à un élève qui n'écrit pas, ça ne va pas rentrer puisqu'il ne pratique pas la seule
c'est
vraie
pratique. C'est
comme
si on apprenait l'anglais mais qu'on ne le parlait jamais,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, exactement. Et en français, il faut écrire. Il faut écrire pour fixer, il faut écrire pour apprendre à pratiquer véritablement notre langue.
C'est pareil, est-ce que vous avez un exemple qui vous reviendrait à l'esprit parmi tous les toutes les heures d'enseignement que vous avez eues qui illustreraient la vertu de cette expression.
Alors écoutez, en collège, moi ce que je propose, c'est qu'on écrive toutes les semaines. Une semaine, on fait des exercices de style, c'est-à-dire on travaille l'écriture à la lumière des grands auteurs. On ne va pas chercher des procédés, mais on va chercher du sens. Comment est-ce que tel texte est à ce point porteur de sens? Et on cherche pourquoi. Alors par exemple, on travaille sur les verbes vivants. Ça, c'est vraiment très intéressant. Au lieu, quand on fait une description, de dire, ben, je sais pas, il y a des livres sur l'étagère ou je vois un tapis sur le carrelage, on va chercher le verbe qui donne vie. Par exemple, le vieux livre dort sur l'étagère, un tapis soyeux réchauffe le carrelage, par exemple. Donc ça, on le fait, par exemple, avec des élèves de 6e, de 5e. Voilà. Et la semaine suivante, l'élève est sur une copie blanche et il compose un véritable devoir, une véritable rédaction, un véritable texte avec un sujet qui lui demande d'avoir du sens. Alors, comment est-ce que ça se vit, ça, concrètement? Parce que l'élève aujourd'hui est très peu prêt à ça. Comment est-ce que ça se vit? Ça se vit dans un véritable atelier d'écriture qu'il faut mener en classe. Il faut dédramatiser l'écriture, écrire spontanément. Moi, j'écris avec mes élèves. Nous composons ensemble une introduction, un paragraphe. Ensuite, chacun lit, ou certains élèves, plusieurs élèves, et moi aussi, nous lisons ce que nous avons écrit. Et cette pratique de l'écriture ensemble, je la mets en place, même au lycée. Nous préparons, actuellement, j'ai une classe de première, nous préparons le bac de français, donc, eh bien, nous entraînons, nous composons, par exemple, pour une dissertation dont nous avons fait le plan schématique, nous composons chacun, et moi aussi, une bonne introduction pour cette dissertation. Ensuite, on partage ce que l'on a fait, et on corrige, on en tire les conséquences, on partage nos idées, voilà. Et avec cette pratique-là, l'écriture est dédramatisée. L'élève n'est pas un beau jour en fin de trimestre, pour une fois seul devant une copie, mais il est en permanence dans une activité d'écriture en classe.
Alors, c'est pas anodin que vous ayez choisi de publier votre ouvrage chez, au sein de la maison d'édition SOS Éducation. Est-ce que vous nous en direz un mot? On imagine qu'il y a une intention derrière, très rapidement.
Et oui, en fait, SOS Éducation regroupe un certain nombre d'adhérents et de très nombreux sympathisants qui se font l'écho de cette demande d'une réforme profonde de notre système d'enseignement qui permette véritablement aux jeunes de recevoir une culture et d'avoir accès, notamment pour le français, d'avoir accès aux textes littéraires.
Merci beaucoup, Claire Le Breton. Vous nous avez presque envie de donner envie de redevenir collégien et lycéen pour passer des heures en cours avec vous. Voilà, je ne sais pas comment on fera, on trouvera une solution. Manuel de survie du professeur de français aux éditions SOS Éducation. Merci. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.